Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de celle.
Bonjour à toutes et tous. Vous savez, dans cette émission, dans Délivre-vous pour ces deux ailes, nous aimons la loyauté, la fidélité et l'amitié. Et il est vrai, cela va faire bientôt 20 ans que j'anime cette émission. Et c'est vrai que, eh bien, j'ai la chance d'avoir des auteurs qui sont devenus des amis fidèles de l'émission. Et pour cela, je tiens vraiment à les remercier parce que sans eux, il n'y a pas d'émission. L'émission ne peut pas vivre. Alors aujourd'hui, je reçois un ami de l'émission, un homme adorable que j'apprécie beaucoup, toujours plein d'allant, toujours vif dans l'expression de la vie et de ses aventures, et surtout un romancier hors pair, toujours avec cette écriture fine, fluide, qui nous fait partager moult aventures entre fiction et réalité, et toujours avec des personnages très attachants. Lui-même l'étant, on retrouve dans ses personnages cet homme chaleureux avec un grand cœur, et je pense aussi avec des dons du cœur. Bonjour Maurice de Kervé-Noël.
Oui, bonjour Claudine, vous allez bien ?
Bien, merci. Je suis ravie, je vous le disais en antenne, de vous accueillir de nouveau. Vous êtes un éternel invité de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Et je suis ravie de vous retrouver pour le tome 2 de La Ferme des Engoulevents aux éditions de l'Archipel. Alors, on vous avait quitté en début de guerre avec ces héros, avec l'occupation qui arrive. Et là, nous allons retrouver des héroïnes, ces femmes de courage et pleines d'espoir aussi. Nous sommes en novembre 42 et l'occupation fait rage. Paris et la France est occupée. Et nous retrouvons Lilibeth de Guermilin qui revient à Paris pour soigner sa mère qui est mourante, et malheureusement elle va être bloquée à Paris où elle pourra pas retrouver à Casablanca retrouver son mari et ses enfants. Et là, eh bien, tout va commencer une aventure, une lutte pour la vie, pour l'espoir, pour la liberté. Elle va retrouver ses amis Cécile et Maïté, et elle va surtout aider aussi une amie juive qui, comme on le sait, persécutée par les nazis. Alors, je suppose que vous avez été heureux de retrouver ces personnages entre fiction et réalité. Dites-nous comment se sont passées ces retrouvailles.
Disons que ces personnages, j'y suis très attaché parce que il y en a au moins deux, pour ne pas dire trois, qui me font penser à des gens que j'ai aimés. Lilibeth me fait un peu penser à ma mère. Cécile, la grand-mère de ma femme. Et puis Maïté, une femme que j'ai connue dans les affaires. Et donc, elles ne m'ont jamais quitté, si vous voulez. Et ce qui m'étonne toujours, quand je suis chez moi en Bretagne et que je fais le tour de mon étang qui est devant la maison avec mon chien, je m'aperçois que je suis avec mes personnages et je peux marcher une heure. Et j'ai été uniquement dans le commerce, si je puis dire, dans la conversation avec ces personnages.
Alors c'est vrai, le préciser, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais ça j'en doute, vous avez été dirigeant de grandes entreprises françaises, vous avez également fait la guerre d'Algérie, bref, un homme complet et entier, avec plusieurs vies et moult aventures tout au long de ces années, c'est important de le préciser. Et puis on vous avait évidemment retrouvé dans précédents romans, dont Les Braises du Souvenir, justement sur la guerre d'Algérie. Alors, il y a un cousin de Lilibeth, Hervé, qui est un homme séduisant, qui, dans votre descriptif, on a envie de le rencontrer. Grâce à lui...
Attention, Claudine, attention, il est séduisant. Un homme dangereux.
Voilà, mais écoutez, en ces temps un peu troubles, après tout, cela fait du bien de rencontrer des gens au physique agréable, n'est-ce pas? Et donc, grâce à lui, elle va pouvoir obtenir de faux papiers et elles vont pouvoir partir en Bretagne, justement, à la ferme des Engoulevents. Et là, finalement, l'aventure va commencer parce que c'est la fuite, et surtout, elles vont se retrouver entraînées dans la résistance pour, je le disais, pour la liberté, pour l'espoir. C'est vraiment un chemin semé d'embûches, mais elles sont fortes, ces quatre femmes.
Hein. Alors, elles se retrouvent dans une région de Bretagne.
Oui.
Qui est en fait la région de Quimperlé. Pour ceux qui connaissent moins la Bretagne, c'est entre Vannes et Quimper.
Tout à fait.
Et c'est une région où il y a eu une très forte résistance.
Oui.
Et donc, le manoir des Engoulevents et la ferme des Engoulevents sont donc situés pas très loin de Quimperlé, sur une rivière qui s'appelle l'Ailée, mais dans un endroit extrêmement sauvage, qui à l'époque était très sauvage.
Hein. Oui.
Et donc elles vont connaître donc beaucoup de elles vont prendre, j'allais dire, beaucoup de risques,
oui,
et connaître de nombreux rebondissements entre les parachutages anglais, l'atterrissage, parce qu'on l'a peu su, mais il y a eu des avions pendant la guerre qui s'appelaient des Lysander, alors je sais pas comment ça se prononce en anglais, peut-être Lysander,
oui,
qui faisaient des navettes entre la France et la Grande-Bretagne. C'était des avions qui pouvaient se poser sur des terrains très courts.
Mmh.
Et en étudiant la question, j'ai découvert que, par exemple, en région parisienne, ils s'en est posé à une époque pratiquement toutes les semaines sans que les Allemands réussissent à les choper. Ils se posaient 10 minutes,
mmh,
ils amenaient de l'argent, ils amenaient des armes, ils amenaient souvent des techniciens radio,
oui,
et ils rembarquaient des juifs traqués et leurs opérateurs et leurs espions. Et donc c'est ce qui va se passer aux Engoulevents. Il y aura à la fois des parachutages et l'atterrissage d'un Lysander.
Alors, ce qui est très intéressant aussi dans tous vos romans, et celui-ci en particulier, mais c'est le dernier, puisque c'est la saga, c'est le deuxième épisode, c'est qu'il y a toujours chez vous une précision historique très importante. C'est-à-dire, on est entre le roman, bien sûr, le côté fiction, les personnages, mais qui se rapportent à des gens que vous avez rencontrés, et puis la réalité historique. Et j'apprécie toujours ce côté très pointilleux, très précis de la chose. On sent que vous êtes très attaché au moindre détail, mais on sent aussi que c'est quelque chose qui vous touche aussi.
Alors, en fait, c'est pour deux raisons. D'une part, c'est pour trois raisons. D'une part, c'est dans mon caractère.
Oui.
Je dirais ensuite que je l'ai vécu.
Oui.
Je dirais pas complètement, mais j'étais petit. J'ai donc des souvenirs très concrets qui authentifient ce que je raconte. Et puis, je crois le fait que j'ai une double casquette d'être à la fois écrivain et un homme d'affaires, et que je continue à diriger des grands groupes, fait que je suis dans l'action matérielle, et donc j'ai beaucoup de mal à raconter des choses qui ne soient pas vraisemblables.
Mm-hmm. Oui, oui, ça vous perturberait de ne pas être près de la réalité. Oui, ça je le comprends bien. C'est ce qui donne d'autant plus d'authenticité au personnage. Parce que on se dit, ils ont vraiment existé. On a envie de rechercher leur authenticité. C'est ça aussi. Il y a aussi beaucoup d'authenticité dans les récits que vous faites.
Oui, non, c'est sûr que je m'appuie beaucoup sur les choses matérielles, sur mes souvenirs.
Oui.
Et puis, je vais prendre une expression un peu vulgaire, mais j'écris avec mes tripes, si vous voulez.
Oui,
donc ça,
c'est vrai.
Ça m'oblige.
Oui. Alors c'est vrai que pour ces quatre femmes-là, on va pas tout raconter, on va laisser le soin aux auditrices et auditeurs de découvrir ce deuxième opus de la saga, mais 44, bien sûr, vont être pour elles plein d'espoir, même si ça n'a pas été si facile. Et c'est vrai que au travers de ce deuxième épisode, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que la Normandie, le débarquement, mais on oublie que dans d'autres régions de France, et notamment en Bretagne, comme vous le disiez, la résistance a été vive aussi, il y a eu des gens énormément courageux, il y a eu beaucoup de choses.
Au-delà de ça, l'armée anglaise a rendu un hommage appuyé à la Bretagne,
oui,
parce que la Bretagne a énormément aidé les Anglais, c'est-à-dire que il y a eu moins d'actions de résistance qui cherchaient à éliminer des officiers allemands ou faire dérailler des trains.
Oui.
Mais la Bretagne a joué un rôle énorme dans l'apport de renseignements. Et notamment, il y avait des espions français près des grandes bases allemandes qui étaient Saint-Nazaire, Lorient, Brest,
oui,
et qui indiquaient aux Anglais la sortie des sous-marins, la sortie des bateaux de guerre anglais, leur indiquaient des mouvements de troupes. Et au moment du débarquement, les Anglais ont énormément apprécié le fait que la Bretagne les a beaucoup informés et a créé ensuite un abcès de fixation. C'est-à-dire que à ce moment-là, les Bretons ont pris le maquis et ont obligé un certain nombre de divisions allemandes à rester sur place à se battre,
oui,
plutôt que de rejoindre les troupes qui se battaient contre le débarquement.
Mmh.
à fait. Alors dans ce deuxième épisode, je dirais qu'il y a tout, c'est complet. C'est-à-dire que il y a l'occupation 1942 à Paris, et c'est vraiment un moment très difficile hein, sur entre je dirais 41, 42, 43, c'est vraiment des années très très compliquées. Et tout y est, c'est-à-dire que il faut faire face à l'occupation, il faut vivre, il faut manger,
et il faut s'habiller.
Il faut s'habiller.
Parce que je me rappelle comme enfant, mes parents, maman était amenée à recouper des vêtements mis de la marine, puisque mon père était officier de marine, pour nous faire des vêtements. On avait des sandales avec des pneus en caoutchouc sous les pieds. Enfin, il fallait se chauffer, se nourrir et s'habiller.
Tout à fait. Alors, les commerçants entre eux, ça c'est mon père qui me l'a raconté, parce que mes grands-parents étaient commerçants, enfin ma grand-mère, parce que mon grand-père était prisonnier. L'avantage des commerçants, ils pouvaient faire du troc entre eux, donc ça c'était ils arrivaient à s'en sortir comme ça à peu près, voilà, à peu près. Il y a aussi, alors vous parlez aussi des faux papiers, ça mine de rien, ça semble un détail, mais c'est très important, parce que sans faux papiers, on pouvait pas prendre le train, sans Ausweis, c'était compliqué d'aller d'une région à une autre aussi.
C'est très compliqué, puis la bureaucratie allemande était très efficace. Et donc, il fallait avoir des vrais bons faux papiers.
Oui, c'est sûr.
Et les gens qui les fabriquaient prenaient des risques énormes. Ils se faisaient choper, ils étaient envoyés en déportation.
Oui, et puis ensuite, quand on voyageait avec ces faux papiers, on devait trembler de se faire découvrir, de voir que ce n'était pas des vrais papiers, ça devait être atroce.
Vous savez, même avec les vrais papiers, je me souviens quand on était enfant, et que maman a dû nous emmener... pour passer en zone libre, rejoindre mon père qui était dans la marine.
Oui.
Quand on a passé la ligne de démarcation, on avait ce qu'on appelle un Ausweis, c'est-à-dire un permis. Mm-hmm. C'était un peu l'équivalent du pass actuel.
Oui.
Et le passage de cette ligne, où on descendait du train, où il y avait tous les Allemands avec leurs chiens loups, ce qu'on appelait les souris grises, c'est-à-dire les femmes de l'armée allemande habillées en gris qui palpaient les femmes.
Oui.
Moi, je me rappelle, comme tout petit garçon, c'était extrêmement impressionnant.
Oui, j'imagine.
Alors que nous avions des papiers en règle.
Oui.
Donc, vous imaginez ce que c'était quand on avait des faux papiers.
J'imagine. Alors, votre livre, quand ils arrivent en Bretagne et qu'elles vont se trouver trimballées, embarquées dans cette résistance, ça m'a fait penser à une série, peut-être l'avez-vous vue, Un village français.
Oui, bien sûr. Bien que breton, ma grand-mère était alsacienne.
Oui.
Et j'ai adoré cette série.
Et votre livre m'a fait penser.
Elle était très authentique.
Oui. Ah oui, ça m'a fait. Votre livre, surtout dans la partie quand ils arrivent en Bretagne, m'a énormément fait penser à votre livre. Il y a des images comme ça qui s'interposaient.
Si vous voulez, ce que j'essaye de faire, c'est créer une ambiance extérieure historique qui soit réelle.
Bien sûr.
Ensuite, de l'action. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les sentiments des gens entre eux.
Parce
qu'il y a la guerre, les gens continuent à avoir des liaisons, à s'aimer.
Il y a de l'amour, bien sûr.
Et c'est ça qui crée, je pense, l'authenticité. Donc, ça n'est pas un récit historique. L'histoire est en toile de fond.
Bien sûr.
La vraie histoire,
c'est entre les gens.
C'est l'aventure sentimentale de Lilibet. C'est la liaison de Diane et de Maïté.
Enfin,
je vais raconter l'histoire.
Oui, voilà.
Mais c'est tous ces sentiments qui font la trame du roman.
Tout à fait. Oui. Eh bien, j'espère que ce qui va faire la trame de l'émission, c'est cette petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie, partout y'a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie, partout y'a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu, pourtant c'est le trop bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: Tant pis pour moi si je suis malade ou je m'embêtais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, monsieur, gardez tout, tout, tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y'a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Y'a de la joie et du soleil dans les ruelles. Y'a de la joie partout, y'a de la... Tout le jour, mon cœur m'a chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y'a de la joie partout, y'a de la joie.
Nous nous trouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Maurice de Carvin-Noël pour son deuxième tome de La ferme des Engoulevents aux éditions de l'Archipel. Alors, je dirais qu'en fait, dans ce livre, il y a deux parties, si je peux dire. Il y a la partie à Paris où là, elle est bloquée avec ses amis, l'occupation, elle va tenter de sauver Esther, les papiers, et puis ensuite la partie résistance en Bretagne où elles vont se retrouver. Mais alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez tonitruant, c'est-à-dire que effectivement, il y a le rapport entre les gens, mais l'action est là, ça bouge, on s'essouffle avec elle, on a peur avec elle, on se cache avec elle, on agit avec elle. C'est extra, franchement. Moi j'ai adoré.
C'est le but.
Oui. Non, mais je me suis dit, mais vous savez, ça me fait penser aussi à Mary Poppins quand elle tombe dans le panneau, dans le tableau, et qu'elle vit les comment dirais-je, les aventures du tableau. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais moi je suis dans le livre et je vis avec elle. Et ça c'est remarquable, parce que c'est sans doute le but aussi que vous cherchiez, que l'on vive avec ces femmes-là.
Vous me faites un grand compliment, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire, c'est-à-dire transmettre ce que je ressens, parce que quand j'écris, ben, je suis dans la peau de mes personnages,
bien
je vibre, j'ai peur, je m'enthousiasme, et je rêve de faire passer ça à mes lecteurs. Donc si vous l'avez ressenti, c'est une grande joie pour moi.
Oui, mais on s'attache à elle aussi, on s'attache beaucoup à elle, à leur aventure, et puis c'est vrai qu'on a envie qu'elle soit libre, on a envie aussi que ce soit la liberté, c'est aussi notre liberté aussi. Elles se sont battues, en fait, moi je me dis, ces quatre femmes-là, elles se sont battues aussi pour qu'aujourd'hui nous soyons libres aussi.
Ben, vous savez, quand on voit ce qu'est la dictature, quand on voit ce qui se passe actuellement,
oui, j'allais vous le dire,
en Ukraine,
oui,
avec l'invasion et autres,
oui,
les gens ne se rendent pas compte, mais la vie peut très très vite basculer.
Oui, oui. Alors justement, à ce sujet, c'est pas un parallèle peut-être très élégant, mais au sujet de ce qui se passe aujourd'hui, je voulais justement avoir votre sentiment, parce que je sais que vous êtes un féru d'histoire et vous le connaissez bien, vous avez beaucoup voyagé. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment ?
Je pense deux choses. Je pense d'abord qu'il y a eu une grosse erreur de l'Occident. C'est-à-dire que si on avait suffisamment été intelligent vis-à-vis de la Russie qui avait peur,
oui,
il eût fallu obtenir de l'Ukraine qu'elle soit neutre et que ce soit un pays, je dirais, à caractère fédéral, et que les partis russophones, comme en Suisse, il y a une Suisse alémanique, une Suisse italienne, etc.
Mm-hmm.
Il aurait fallu que les différentes provinces de l'Ukraine puissent avoir une forme d'autonomie, pratiquer leur langue.
Mm-hmm.
Et je pense que beaucoup de choses auraient été éliminées. Alors, à partir de ça, ça n'a pas été fait, mais c'est dommage, parce qu'on aurait probablement pu éviter tous ces drames. Bon, ce que je pense, c'est que on assiste à une invasion.
Mmh.
On est face à un dictateur qui est, je pense, je ne devrais pas le dire, mais j'ai eu un petit déjeuner ce matin passionnant avec, je ne vais pas dire son nom, mais avec le grand patron de la DGSE.
Oui.
Et il a insisté sur le fait que Poutine a beaucoup évolué ces dernières années.
Oui.
Et que c'est un homme extraordinairement isolé. Mmh. Isolé, et qui ne se rend plus bien compte des réalités. Il y a très peu de gens, il y a 3-4 personnes qui communiquent avec lui, qui sont terrorisées et qui ne lui disent pas la vérité.
Ouais.
Et donc je pense qu'on est face à un dictateur, et le dialogue est très difficile. Et comme ce dictateur est probablement malade, il le porte sur son physique,
ouais,
il est probablement un peu parano, je pense qu'on est dans une situation très très difficile et que le président Macron a raison d'essayer de maintenir un fil tenu, étroit, de dialogue. Alors comment ça va se terminer, c'est très difficile à dire. Est-ce que peut très bien être une guerre qui s'enlise ou au contraire, Poutine ne le supportant plus, commette un certain nombre d'actes irrémédiables pour essayer de se sortir du guépier où il s'est mis.
L'autre jour, général...
Je pense qu'on est dans quelque chose
de dangereux, de dangereux.
Et très inquiétant.
Oui. L'autre jour, le général Desportes, que vous connaissez peut-être, disait « Le problème de Poutine, c'est que c'est un chien enragé. Et un chien enragé, dans une, acculé dans une impasse, c'est pire.
Voilà. » Bah, écoutez, moi j'ai une femme qui est, pour des raisons professionnelles, est très proche du grand professeur de psychiatrie.
Oui.
Et il est évident que Poutine, d'une certaine façon, est quelqu'un qui est un malade mental.
Oui. Oui.
Et il est dans un délire de la persécution, dans un isolement total, avec le monde entier contre lui.
Mm-hmm.
Et c'est très, très, très dangereux quand on est... Alors, ça revient à la comparaison du chien enragé.
Mm-hmm.
Mais quelqu'un qui souffre de ce genre de maladie... Mm-hmm. peut avoir une réaction extrêmement violente pour ne pas sombrer seul.
Mmh. Bah je discutais l'autre jour avec une journaliste ukrainienne et qui connaît des gens en Russie et qui ont été à peu près du pouvoir. Il est tellement parano, alors il aurait quitté Moscou et un peu comme Staline, il changerait de chambre tous les jours parce que justement il a peur. Voilà.
Ce qui est caractéristique, c'est cette peur qu'il a du Covid.
Ouais. Ouais, ouais.
Il se tient à distance, il y a une espèce de tunnel où quand les gens viennent le voir, où ils se font désinfecter.
Mmh.
Vous avez vu la façon dont il a reçu le président Macron.
Une table de 4 mètres, une table de 4 ou 10 mètres.
Pour ne pas être contaminé. Ouais. Et ça montre l'angoisse, c'est une grande angoisse, si vous voulez.
Oui, alors...
Je crains de le dire, il est paranoïaque.
Oui, oui, ben ça, paranoïaque et frustré, en colère.
Ça fait partie de la...
En colère, donc dangereux. Voilà, il faut dire les choses. Alors, c'est curieux, ben, je ne sais pas, le parallèle, vous allez peut-être le trouver un peu étrange, mais avec ces quatre femmes, ces quatre mères courage, moi j'ai envie de dire, Cécile, Maïté, Esther et Lilibet, quand on voit ces femmes en Ukraine aussi qui se battent, qui cousent pour l'armée, qui protègent leurs enfants, je me dis finalement, les femmes dans la guerre, elles... C'est le meilleur, c'est le fer de lance, c'est la base de tout, c'est la racine. Ce sont des mères qui protègent tout. Finalement, les femmes, elles protègent leur famille, les soldats. Et là, vos quatre héroïnes aussi, c'est protéger aussi les siens, les leurs aussi.
Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Quand les femmes baissent les bras, le monde tombe. »
Ah oui, moi je suis bien ça.
Et là, elles n'ont pas baissé les bras.
Et non.
Et alors, il y a une deuxième réflexion que je voulais vous faire, parce que moi, elle a beaucoup marqué ma vie. Les hommes faisaient la guerre. Moi, mon père était officier de marine, sous-marinier. Il était sur l'eau ou sous l'eau. Et je ne l'ai pas vu depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 9 ans.
Mm.
Et donc, j'ai été élevé par des femmes. Et j'ai été extrêmement frappé que ces femmes seules, elles ont géré la vie. Parce qu'avant la guerre, on était dans un système extrêmement patriarcal où papa était commandant, maman était lieutenant de papa. Puis, bon. Et ces femmes, d'un seul coup, ont été amenées à faire l'exode, à gérer, à prendre des décisions difficiles, à passer en zone libre, à faire de la résistance.
Mmh.
Et quelque part, moi, ça m'a marqué. Et c'est pour ça qu'en tant que président de grands groupes, j'ai eu très tôt des femmes dans mes comités de direction, dans mes conseils d'administration.
Oui.
Parce que j'ai considéré que les femmes apportaient énormément, parce que... Quand j'ai revu mon père revenir, j'ai pu comparer entre l'autorité douce de maman et l'autorité plus virile,
plus martiale
et brutale de mon père.
Oui,
donc ça n'est pas une critique du monde masculin,
sûr,
mais c'est
sûr.
Dire que la guerre, dans ce domaine-là aussi, a été un révélateur.
Mmh.
Et dans le troisième tome, je montrerai la grande difficulté qu'ont été pour les femmes le retour des hommes.
Oui. Bien sûr. Alors,
parce que quand des femmes, pendant 5 ans, ont vécu des aventures incroyables, pris des risques, manqué d'être déportées, tuées, tout ce que vous voulez, et puis d'un seul coup, il faut claquer des talons, se retrouver à la cuisine avec un seigneur et maître, et qu'on est intelligente et capable, c'est pas très facile.
Alors justement, c'est très bien, vous me lancez la perche, si je puis dire, à propos de ce troisième tome. Bien sûr, on retrouvera, je suppose, ces héroïnes. pour le final, je le suppose, vers la liberté. Est-ce que le troisième tome a été écrit juste après le deuxième, c'est-à-dire que déjà c'était les chevaux qui s'étaient mis à la suite du second? Est-ce que c'était déjà sur le métier?
Il est fini, il est déjà dans le tuyau.
D'accord.
Et je l'ai écrit dans la foulée, parce que pour moi, c'était un continuum.
Oui.
Et je ne me suis pas arrêté en 45, j'ai été un peu au-delà.
D'accord.
Parce que j'ai voulu voir, si vous voulez, les conséquences de la guerre.
Oui.
Pas immédiatement après, vous voyez, au niveau des personnages.
Mmh. Alors, à la fin de cette trilogie, est-ce que vous avez déjà d'autres projets?
Alors, j'ai commencé un roman très différent.
Oui.
Sur une héroïne qui a existé, alors, qui se passe au XVIIIe siècle.
Ah, j'adore.
C'est sous la Révolution.
Ah, super, j'adore.
L'histoire d'une femme dont je connais bien l'histoire. Alors, à partir de cette histoire, j'ai brodé. Je n'ai pas mis page à page ce qui s'est passé. Je lui ai prêté des sentiments, des trucs. Mais c'est une femme qui a joué un rôle important, qui a été la maîtresse de Hoche, bien qu'elle soit la fille d'un marquis, enfin, et qui a connu des aventures assez incroyables.
D'accord. Est-ce que vous avez conscience, alors, maintenant ça n'engage que moi, c'est ma lecture et mon regard sur vous et sur votre écriture, je trouve que au travers de vos héroïnes, des femmes dont vous parlez avec toujours beaucoup d'amitié, d'amour et de sérénité, il y a beaucoup de féminin en vous, Mère Maurice de Kervenhoel.
Je crois être un homme assez viril, avec enfant et tout le truc, mais j'ai toujours assumé, j'ai toujours pensé, comme on le pense dans les philosophies hindoues, que dans tout homme, il y a une part masculine et une part féminine. Et moi, j'assume totalement, je dirais, ma part féminine. et pour vous dire la vérité, quand je vais dans une réception ou un dîner, je suis plus heureux dans le commerce des femmes que dans celui des hommes.
Mais c'est normal.
Les hommes m'ennuient assez rapidement parce qu'ils parlent de business, moi j'y vis tout le temps. Ils parlent de politique, mais ils me font une petite synthèse du Monde, du Point ou du Figaro.
C'est sûr.
Alors que les femmes, elles sont beaucoup plus dans la vie, elles sont beaucoup plus distrayantes.
Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, voilà. je vais pas vous dire le...
Mais moi je vais être critiqué par mes copains pour avoir dit ça.
Bon, on s'en fiche, c'est pas grave, du moment que vous serez soutenu par les femmes, je montrerai un club exprès pour vous. Voilà, le club Maurice de Kervenhoel avec vos fans.
Et mes groupies.
Voilà, c'est ça. Et puis, on essaiera de trouver des Céciles, des Maïté, des Lisbeth et des Esther. Alors, pour conclure, parce qu'il faudra se quitter, moi, ce que j'ai trouvé aussi très émouvant, j'aime beaucoup Esther, parce que être comme ça poursuivie, pourchassée, ça doit être difficile à vivre. Et je la trouve aussi pleine de sérénité, pleine de résilience aussi.
Oui, absolument. Et vous, bon alors, pour le coup, je l'ai imaginé, mais avec quand même quelques personnes que j'ai liées. Et vous verrez, dans le troisième tome, elle réussit à la fin de lui à repasser en Angleterre.
Oui.
Et vous allez voir qu'elle va écrire, elle retrouve sa personnalité, sa joie de vivre, le sens de l'action.
Oui.
Et ça va être une héroïne à part entière.
Ah, super, j'adore. En tout cas, c'est une belle histoire encore, ce deuxième tome. Moi, j'ai adoré et je suis sûre qu'il marchera et je sais qu'il marche bien comme le premier tome, la Ferme des Engoulevents, au tome 2 aux éditions de l'Archipel. Ça a été un vrai bonheur, comme d'habitude, de vous retrouver en ce début presque de printemps et vous êtes un second rayon de soleil pour délivrer vous pour ces deux ailes.
Vous êtes adorable, chère Claudine.
Eh bien, écoutez, on se retrouve quand dans quelques mois pour le troisième tome. C'est quand le troisième tome? Il sort quand?
Ben, là, je suis tributaire de mon éditeur. Il sortira soit fin décembre, soit début janvier prochain.
D'accord. Eh ben, je guetterai ça avec joie. Voilà. Un vrai plaisir de vous retrouver. Donc, ce deuxième tome de La Ferme des Engoulevents aux éditions de l'Archipel. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt et prenez surtout soin de vous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Merci. Ben, quant à nous, nous quittons. Voilà. Avec un petit peu de tristesse, mais nous allons bientôt nous retrouver dans une semaine pour de nouvelles aventures littéraires. En attendant, prenez soin de vous. Et puis le printemps est là, alors voilà, tentons de respirer et de garder la joie de vivre. À bientôt, au revoir.